بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche, le 6 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 25 janvier 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture du livre de Cheikh al-Allama Hafid al-Hakami, qu'Allah lui fasse miséricorde, intitulé « A'lam al-sunnati al-manshura ». On s'est rendu à la 107e question de cet ouvrage très bénéfique et très, très profitable dans la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et comme vous savez, la croyance et le dogme, ils concernent les 6 piliers de la foi. Donc, on est toujours dans les points qui concernent la foi au jour dernier. Et dans cette question, il dit « Ma dalilul imani bil mauti ?» Quel est l'argument ? Quelle est la preuve sur la foi en la mort ? La foi en la mort. Et on peut s'étonner, yani, comment demander des preuves au sujet de la mort. La mort sur laquelle tous les humains s'accordent. Tous les humains s'accordent sur sa réalité et son existence, et qu'on est tous voués à la mort, croyants comme mécréants. Lakin, ce qui peut expliquer cette question, notamment ce qui a été rapporté de l'Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit « Ma ra'aytu yaqinan la shakka fih wa la ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. Donc il est rapporté de Hassan al-Basri rahimahullah qu'il est dit: je n'ai pas vu une certitude dans laquelle il n'y a pas de doute, qui ressemble à un doute dans lequel il n'y a pas de certitude, comme la mort. Malgré que tout le monde reconnaît la mort et son existence et sa réalité, lakin, c'est qui œuvre par rapport à cette mort? C'est yani, une toute petite minorité parmi les fils de Adam, parmi ceux qui croient en la mort. C'est pour ça qu'il est rapporté de certains salafs, ils ont dit Omar ibn Abdelaziz ou autres, je ne me rappelle pas très bien maintenant, lakin, il a dit par rapport à la mort, il a dit ou bien nous reconnaissons son existence, alors nous sommes des fous. Ou nous renions son existence, alors on est voué à la perdition. Ou bien tu reconnais la réalité de la mort, et pourtant tes œuvres ne vont pas en accord avec cette croyance. Normalement, si tu sais que tu vas mourir, avec certitude, tu te prépares pour ce jour-là et pour tout ce qui va suivre la mort. Mais la plupart des gens ne se préparent pas pour ce jour-là. La plupart des gens bâtissent ce bas monde tout en se détournant de l'au-delà. La plupart des gens regardent Ad-Dunya et oublient Al-Akhirah. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. La plupart des gens sont dans une insouciance, une rafla par rapport à la mort. Wallah al-Musta'an. Et il est rapporté de Omar ibn Abdelaziz, sa parole, لَوْ فَارَقَ ذِكْرُ الْمَوْتِ قَلْبِي سَاعَةً لَفَسَدْ. Il dit, si j'oublie la mort, ne serait-ce que pendant un petit laps de temps, mon cœur sera corrompu. Mon cœur sera perverti. Alors que dire de celui qui oublie la mort tout le temps? Il n'y pense jamais. Certains salafs, ils se rappelaient la mort à chaque pas. À chaque fois qu'il lève le pied, il se dit peut-être que je ne le poserai pas par terre jusqu'à ce que la mort arrive. Il n'a pas la garantie de le poser par terre. Et ça, c'est les gens qui ont les cœurs vivants. Les cœurs en plein forme. Les cœurs en bonne santé. C'est ceux qui se rappellent tout le temps la mort. Car se rappeler la mort, ça te fait voir la réalité de Dunia. La mort, ça dévoile Dunia. Ça dévoile sa réalité. C'est pour ça que le Nabi, comment il a appelé la mort? Comment il a nommé la mort, alayhi salatu wassalam? Il l'a appelé hadhimul ladhat. Hadhimul ladhat. Celui qui détruit les envies et les plaisirs. Le destructeur des envies et des plaisirs. Tu te rappelles la mort? Quelle est la valeur de toutes ces fortunes que tu as amassées à tes yeux? Tu vois que ça t'appartient même pas. Ça va passer aux héritiers. Ça n'a plus de valeur. Toutes les maisons que tu possèdes, toute la fortune que tu as amassée, ça n'a plus de valeur. Et aussi, se rappeler la mort, c'est parmi les meilleurs remèdes des situations de détresse et des difficultés. Tu es dans une situation extrêmement difficile, une grande épreuve, touché par une très grande épreuve, douloureuse. Tu te rappelles la mort? Ça l'allège. Ça allège les peines et les afflictions. Là, tu te dis, peut-être que je vais mourir dans quelques instants, dans quelques minutes, dans quelques heures. Et tout ça sera terminé. Il ne restera que la douceur de la récompense de ma patience face à ces épreuves. C'est pour ça qu'il est toujours important de se rappeler à la mort. Et parmi les causes de la perdition des gens de cette communauté, c'est l'oubli de la mort. C'est ce que le Nabi a souligné quand il a parlé de Tolul Amal. Hubbu ad-dunya wa karahiyatul maut. L'amour de la vie mondaine et l'attachement à la vie mondaine et la détestation de la mort. Celui qui bâtit Dunia et qui travaille que pour Dunia, il déteste la mort. Il veut pas que tu lui parles de la mort. Et je m'amusais à faire cet exercice avec les koufars. Yani, à parler de la mort. Qu'est-ce qui va arriver quand tu seras dans une tombe incinérée ou là, comme tu veux? Et c'était un discours choquant pour eux. Il pense que t'es malade. Pourquoi tu penses à ça? Parce que lui, il veut surtout pas se rappeler ce moment. Et le fait de se rappeler à la mort, ça te facilite les adorations. Ça te facilite les adorations dans lesquelles tu trouves beaucoup de difficultés à accomplir. Ça te facilite tout le bien. Se rappeler la mort, ça t'éloigne des péchés. Imagine avant de commettre un péché dans lequel tu trouves un immense plaisir. Imagine juste avant tu te rappelles la mort. Et que ton âme peut quitter ton corps pendant ce péché. Je ne pense pas qu'un croyant le fera. Lakin, pourquoi on le fait quand même? Parce qu'on est dans le ghafla. On est dans l'insouciance. On est loin du rappel. On est loin du rappel. Et l'insouciance, comme vous savez, c'est une des deux cordes les plus fortes avec lesquelles Shaitan ligote le fils de Adam. Il l'attache avec le rafla. Et l'autre corde, c'est al-jahl, l'ignorance. Yani, comment expliquer? Yani, la première génération de cette communauté, elle vivait avec la science. Elle vivait avec les hommes de science. Ils étaient en contact avec la science tous les jours. Et pourtant, c'était des gens qui avaient des familles, qui avaient des devoirs, des responsabilités, des enfants. Il fallait les nourrir, les vêtir, leur trouver un logement. Lakin, ils vivaient avec l'ilm tous les jours. Vous connaissez tous l'histoire de Omar radiallahu anhu avec son voisin. Omar radiallahu anhu, il ne pouvait pas aller auprès du prophète alayhi sallam tous les jours. C'était pas possible. Étant donné qu'il devait veiller sur ses biens et fructifier ses biens et veiller sur le bétail qu'il possédait, ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il a dit, c'est bon, alhamdoulilah, je suis dans le travail, et comme les awam disent, ils disent l'amal ibad, le travail est une adoration. Et ça, ça n'existe pas dans un hadith, ni dans rien de ce qui est rapporté de Nabi alayhi sallam. Le travail, c'est pour gagner les euros. C'est pas une adoration. Et la preuve, si on te dit travaille gratuitement, fi sabilillah, tu travailles pas. Tu travailles quand il y a les euros. Ou là, les dollars, ou là, les rials, ou là, les dinars, dirhams. C'est là où tu travailles. Amma, travailler sans rien, en espérant la récompense auprès d'Allah, tu le fais pas. L'adoration, c'est la salat. Tu l'as fait, même si, à la fin de salat l'Aïcha, l'imam, il sort pas. Il y a des billets de 5 euros, là, 10 euros, tu vas venir faire salat. Ça, c'est une adoration. Lakin, quand ton travail t'aide dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il te donne la récompense d'une adoration. C'est seulement avec la bonne intention. Pas toute personne qui travaille est récompensée. Et bien évidemment, il faut que ce travail ne s'oppose pas avec l'adoration de base pour laquelle Allah t'a créé. Allah t'a pas créé pour travailler et gagner de l'argent. Il t'a créé pour l'adorer. Donc le travail pour gagner de l'argent, il est censé t'aider pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être un muslim fier qui gagne sa vie et qui n'est pas dépendant des autres. Pour être un muslim qui subvient à ses propres besoins et aux besoins de sa famille. Qui honore ses responsabilités. Un muslim qui aide ses frères qui sont dans le besoin. Et le muslim fort est meilleur auprès d'Allah que le muslim faible. La main qui donne est meilleure que la main qui prend. Lakin, si le travail t'éloigne de l'adoration de base pour laquelle Allah t'a créé, ça devient un péché. Et non pas une adoration. Le rappel de la mort augmente ta certitude sur ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde, Allah t'a promis un paradis dans la largesse, pas la longueur, la largesse. Et comme les cieux et les terres. Jannatin 'arduha as-samawati wal-ard. Mais pourquoi, comment expliquer qu'on n'œuvre pas pour ce paradis dans lequel il y a ce que nul œil n'a vu, ni nulle oreille n'a entendu, et nul homme n'a pu s'imaginer. Ce qu'il y a dans le paradis, c'est inimaginable. Tu ne peux pas l'atteindre avec ta raison d'aujourd'hui. Et pourtant, regardez nos œuvres pour ce paradis. Allah nous a menacés par le feu et le châtiment dans le feu. Et le feu, c'est pas le feu de l'enfer, c'est pas un feu brûlant qui est plus de 70 fois plus fort que le feu du bas monde. C'est pas seulement ça. C'est un monde de châtiment. C'est des variétés, des catégories de châtiment. Au point où celui qui est châtié dans le feu de l'enfer, il peut pas s'habituer à un seul châtiment. Il aimerait tellement qu'il ait un seul châtiment. Il peut pas s'habituer. Il passe d'un châtiment vers un autre, d'un châtiment vers un autre, et ainsi de suite. Sans fin. Et pourtant, nos œuvres ne nous éloignent pas de ce feu de l'enfer. Au contraire, elles ne nous rapprochent pas de ce paradis immense qu'Allah nous a promis. Et ça, et peut-être je vais terminer avec ça, il faut qu'on revienne à notre sujet. Là, qu'il la mort m'a fait penser à ces choses-là. Et je demande à Allah que ça me soit bénéfique à moi, ainsi qu'à mes frères et sœurs fillah qui entendent. Donc, un salaf a résumé. Yani, subhanallah, les paroles de salaf, c'est des phrases courtes et concises, mais qui donnent des règles et des modes de vie. Il a dit, œuvre pour dunya proportionnellement à ta durée de vie dans cette dunya. Et œuvre pour l'akhira proportionnellement à ta durée de vie dans l'akhira. Elle est de combien notre durée de vie dans l'au-delà? Elle est éternelle. En mathématiques, ils disent l'infini. Et ça, c'est une erreur chez les mathématiciens. C'est un point qui pose problème dans la croyance. Lakin, l'infini, c'est dans l'au-delà. Il n'y a pas un chiffre infini. Donc, amma l'infini, c'est l'akhira, c'est dans le paradis. Le paradis, les plaisirs et les délices n'ont pas de fin. Chaque délice, chaque plaisir est meilleur que celui qui l'a précédé. Et donc, si on avait toute notre raison, et si on réfléchissait correctement, on aurait fait ce que cet homme a dit. Œuvre pour ta vie mondaine, proportionnellement à ta durée de vie dans cette vie. Combien tu vas vivre? 60 ans, 70 ans, 100 ans? 200 ans? Allez hop. On ne connaît pas des gens à notre époque qui vivent 200 ans. Lakin, même si on suppose que c'est 200 ans, même si on suppose que c'est 3, 4, 5 siècles, 10 siècles, 1000 ans, qu'est-ce que ça représente comparé à l'éternité? En mathématiques, ils disent zéro. Donc, si tu n'arrives pas à ce degré-là, et on est très loin de ce degré-là, alors au moins œuvre pour l'akhira, fais comme Allah a dit. Allah t'a donné quelque chose qui est à ta portée. Ce salaf, peut-être ce qu'il a dit, c'est difficile. Que pour des gens à qui Allah a facilité ce bien. Et ça existait chez les salafs, des gens comme ça. Ils œuvrent que pour l'akhira. Et ils se contentent de très 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 peu de dunya. Yani, vous savez combien de salafs ont été décrits ainsi? Si on lui demande que la mort arrivera demain, il ne peut rien faire de plus que ce qu'il fait actuellement. Beaucoup ont été décrits ainsi. Il peut rien faire de plus, ça, il est au maximum. Ah, les gens comme ça. Lakin, nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, notre religion, c'est la religion du juste milieu. Il nous a donné une option beaucoup plus facile. وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Donc, œuvre pour l'au-delà et n'oublie pas ta part dans le dunya. N'oublie pas, tu as besoin de dunya. Donc, œuvre pour dunya également. Lakin, fait que l'essentiel de tes efforts, qu'ils soient pour l'au-delà. Et même quand tu fais des choses de ce bas monde, fais-les avec une bonne intention. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense de l'adoration. Tout ce que tu fais de dunya, tu manges, tu bois, tu dors, tu te reposes, tu fais une balade, tu as des relations intimes avec ton épouse, tu donnes du temps à ta famille, tu parles avec eux, tu discutes avec eux, tu fais rentrer la joie dans leur cœur, tu restes à l'écoute de ton frère qui a des soucis, des problèmes, malgré que toi, tu es très 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 occupé par mémoriser le Coran, par des choses d'une très très grande valeur. Lakin, ces éléments-là
peuvent te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Et c'est occasionnel, c'est pas tout le temps. De rester, écouter ton frère qui a des soucis, qui a des problèmes, le soulager, lui dire des paroles réconfortantes. Ça, c'est des grandes adorations en islam. Faire rentrer la joie dans le cœur de ton frère, musulman. Être la guidée, la cause de la guidée d'un homme. Le sauver de la mécréance. Être la cause qu'il soit sauvé de la mécréance. Lui faire une da'wah. Lui présenter l'islam tel qu'il est. Dans sa beauté. Dans sa splendeur et sa sagesse. Et ses enseignements qui sont bénéfiques pour le serviteur dans ce bas monde et dans l'au-delà. S'il n'y avait ni paradis ni enfer, je serais resté sur ces lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est le meilleur mode de vie dans dunya déjà. Ça t'éloigne de toutes les choses mauvaises. Ça t'éloigne de tout ce qui est mauvais pour ta santé, pour ta raison, pour tes biens. Ça te donne un honneur, une fierté. Ça t'élève, ça t'apprend à suivre les choses élevées. Et ça t'éloigne des bassesses et des choses méprisables. Ça, c'est la loi d'Allah dans dunya. Alors que dire que c'est la clé du paradis? C'est la clé du succès suprême. Le succès absolu. Alhamdulillah qui nous a fait des musulmans. Et nous demandons à Allah de nous raffermir sur cette religion jusqu'à le rencontrer. Ça, c'était des paroles du cœur, et j'espère au cœur, auquel nous a fait penser cette question au sujet de la mort. Donc, la mort, bien évidemment, c'est une certitude dans laquelle il n'y a pas de doute. Lakin, pour ceux, yani, comme argument dans le Coran, les arguments sont très nombreux. Allah Azza wa dit, « قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ » Dis-leur, l'ange de la mort qui est chargé de prendre votre âme, le fera. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Et ensuite, vous serez ramené vers votre Seigneur. Vous serez ramené vers votre Seigneur. Un salaf lui a dit, décris-nous la mort. Il a dit, la mort, c'est comme un arbre qui est à l'intérieur de ton corps et qui est tiré et qui a des branches partout dans ton corps et qui est tiré par un homme extrêmement fort. C'est ça la mort. Allah Azza wa Jalla dit au sujet de son prophète, à son prophète, alayhi salam, il a dit, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu mourras. Et eux aussi mourront. Toute âme goûtera à la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Et ainsi de suite. Donc, les arguments sont très nombreux dans le livre d'Allah et dans la sunna de son noble prophète, alayhi salam, qui indiquent tous que la mort est une certitude et que personne ne peut échapper à la mort. Personne ne peut échapper à la mort. C'est pour ça, cher, il a dit à la fin de sa réponse au sujet de cette question, après avoir cité plusieurs versets du Coran, il a dit, la mort est une réalité que personne n'ignore et dans laquelle il n'y a pas de doute ni d'hésitation. Et ceux qui renient la mort, c'est par simple orgueil et entêtement. Mais qui œuvre par rapport à cette mort, parmi ceux qui croient en la mort et qu'elle arrivera sans doute? Il a dit, il n'œuvre pour cette mort que les serviteurs dévoués, les serviteurs sincères qu'Allah a choisis, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala choisis. Et nous croyons que toute personne qui est décédée, qui est morte, ou qui a été tuée, ou quelle que soit la cause de sa mort, nous croyons que toutes, elles sont mortes quand leur terme est arrivé. Car personne ne décède, personne ne meurt avant son terme, ni après. Comme Allah Azza wa Jalla dit, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quand leur terme arrivera, ils ne pourront le retarder ni l'avancer, ne serait-ce que d'un petit laps de temps. Sa'a, c'est un petit laps de temps. Et c'est pas l'heure que nous connaissons nous, qui est de 60 minutes. Car elle n'existait pas cette heure. Tayyib. Par rapport à, dans la question suivante, il a demandé des arguments sur la mort tirés de la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est une éducation pour nous, mes très chers frères. Les arguments, c'est pas Cheikh Antel a dit, ou telle personne a dit. Les arguments, c'est la parole d'Allah et la parole authentique de son noble prophète, alayhi salatu wassalam, et de les comprendre comme les compagnons les ont compris. C'est ça la religion de l'islam. Qu'Allah aime et agrée. Amma, que chacun comprenne à sa manière, que chacun torde les coups des textes pour légitimer ses envies, ses passions, ça c'est pas autorisé. Ça c'est pas la manière d'agir de ceux qui veulent être sauvés auprès d'Allah. Celui qui veut être sauvé, il doit suivre la parole d'Allah et la parole de son prophète, alayhi salatu wassalam, et les comprendre comme ils étaient compris par les compagnons, qu'Allah les agrée tous, et de faire de son mieux, et de savoir que cette religion, c'est la religion de la facilité. مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Nulle contrainte n'a été imposée, nulle contrainte n'a été imposée dans la religion. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah veut pour vous la facilité et non pas la difficulté. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge jamais une âme au-dessus de sa capacité. Lakin, la question, c'est de faire de ton mieux et de faire tout ce qui est en ta capacité. Et ce que tu ne peux pas faire, Allah te pardonne. C'est pour ça la capacité n'est pas exigé dans les adorations du cœur et dans les croyances, car tout le monde est capable. Personne ne peut rentrer dans ton cœur et voir ce que tu crois ou là. C'est pour ça que tu dois avoir la bonne croyance et t'es pas excusé à ce niveau-là. Lakin, dans les adorations des membres, les actions de la religion, la chose que tu ne peux pas faire, Allah te pardonne. Tu ne peux pas jeûner à cause d'une maladie, tu ne jeûnes pas. Et t'attends d'être guéri pour rattraper tes jours. Et si c'est une maladie, comme les médecins l'appellent, incurable, alors que pour nous, il n'y a pas de maladie incurable. Donc une maladie dont on ne connaît pas le remède. Comme le diabète. Si c'est des maladies qui durent toute la vie, à ce moment-là, tu ne jeûnes pas et tu passes à la compensation du jeûne. Tu nourris un pauvre pour chaque jour non jeûné. C'est ça la facilité dans l'islam. Tu ne peux pas faire la salate debout, tu la fais assis. Tu ne peux pas assis, tu la fais en étant allongé. Tu ne peux rien bouger de ton corps, tu la fais avec les yeux. Tu ne peux même pas bouger les yeux, tu la fais avec la parole et le cœur. Et tu fais les ablutions avant. Tu ne peux pas faire les ablutions à cause d'une maladie, ou parce que tu n'as pas l'eau pour faire les ablutions, tu passes aux ablutions sèches. Tu ne peux faire ni les ablutions avec l'eau, ni avec la terre, tu fais la salade dans l'état. Et regardez aussi, ça nous rappelle l'importance de la salat. La croyance et ensuite la salat. Tout le monde doit faire la salat. Celui qui abandonne la salat, il est sorti de l'islam. Lakin, le jeûne, tu peux pas. Tu as une compensation. Zakat, tu es pauvre, il n'y a pas de zakat. Le pèlerinage, tu n'as pas les moyens ou tu n'as pas la santé, c'est pas une obligation. Lakin, la salat, ça reste toujours obligatoire. Même si l'heure arrive, tu dois faire ta salat. C'est pour ça que personne ne doit abandonner la salat. Sauf s'il veut abandonner sa religion. Et parmi les hadiths qu'il a relatés ici, dans lesquels notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, nous parle de la mort, il a cité hadith Anas, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de chacun d'entre nous quand il sera placé dans sa tombe et que les gens vont l'enterrer et terminer de l'enterrer et repartir chez eux. Il entendra les traces de leurs pas. Et par la suite viendra le voir deux anges. Munkar wa Nakir. Deux anges avec des cheveux très longs qui arrivent au sol, et des yeux bleus, et une voix comme le tonnerre. La première chose qu'ils vont lui dire, ils vont lui dire, et cet homme, il va avoir l'impression comme s'il se réveille d'un sommeil. C'est réel dans la tombe. Là, c'est un autre monde. Il est sorti de notre monde de Dunya. Il est sorti de cette vie mondaine. Il est passé vers un autre monde, qui est un monde intermédiaire entre le bas monde et l'au-delà. Ça s'appelle Alam al-Barzakh. Le monde intermédiaire. Le monde de l'Barzakh. Tout est réel. Lakin, c'est des choses que nous, on ne voit pas. Si on ouvre la tombe, on va trouver le corps, il est encore reposé, comme on l'a placé. Lakin, ayez la certitude que c'est ce qui se passe. Ces deux anges viendront le voir. La première parole qu'ils vont lui adresser, ils vont lui dire « Marrabbouk, quel est ton Seigneur ?» Et ça s'appelle « Fitnat al-Qabr », l'épreuve de la tombe. Et ne croyez pas que c'est une épreuve dans le sens où cet homme, cet individu, va devoir faire des efforts pour répondre. C'est pas dans ce sens-là que c'est une épreuve. C'est une épreuve en apparence. Mais en réalité, c'est le résultat de sa vie. Il va répondre selon les principes sur lesquels il a passé sa vie. Quelqu'un qui a vécu dans l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Il fait pas des adorations, il égorge pas pour Sidi Tijani ou Sidi Al-Jilani ou Sidi Abdelkader. Les alliés d'Allah, on les aime. Lakin, on les adore pas. On leur fait pas des adorations. Ça, c'est shirk. Ça, c'est les pratiques d'avant l'islam que le prophète islam a été envoyé pour combattre. Et ne sois pas leurré par le fait que c'est répandu dans ta société. Le Nabi islam nous a informé que beaucoup de sa communauté retourneront et retomberont dans shirk vers la fin des temps à cause de l'ignorance. Et le fait que ce shirk soit propagé dans beaucoup de pays, ça indique tout d'abord la faiblesse des efforts des adeptes de la sunna et qu'ils ne remplissent pas leur devoir à propager tawhid. Et avant de le propager, il faut qu'ils l'apprennent. Il faut qu'ils demandent la science et qu'ils voyagent pour apprendre leur religion et ensuite la propager avec sagesse. Donc, il répondra à la première question seulement celui qui a tawhid, celui qui a le monothéisme pur. C'est lui seulement qui répondra à Mar Rabbouk. Amma, celui qui adorait autre divinité, il ne va pas dire mon Seigneur, c'est Allah. L'un de lui, ce n'est pas son Seigneur, Allah. Allah, il fait partie de ses Seigneurs, des divinités qu'ils adoraient, étant donné qu'ils sacrifiaient pour signer un tel. Et le sacrifice, c'est une adoration. Et l'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah. Tu ne sacrifies que pour Allah, pas pour le prophète alayhi salam. Est-ce que le prophète alayhi salam a déjà sacrifié pour son père Ibrahim, le père du monothéisme? Il ne l'a jamais fait. Au contraire, il leur a dit man dhabaha la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah. Il leur a dit qu'Allah maudisse celui qui a égorgé pour autre qu'Allah. Qu'Allah le maudisse, qu'Allah l'éloigne de sa miséricorde. Et effectivement, il est éloigné de sa miséricorde. Il est très éloigné. S'il ne se repent, il se repent pas pendant son vivant. Car c'est le péché qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. L'associationnisme, shirk. Tous les autres péchés, Allah, il peut te les pardonner. Comme il peut te châtier proportionnellement à ses péchés. Et ensuite te faire rentrer au paradis. Lakin, celui qui rencontre Allah avec shirk, il ne verra jamais le paradis. Il sera éternellement en enfer. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne jamais qu'on lui donne des associés. C'est le péché impardonnable. Allah il le pardonne pendant le dunya. Si tu es encore vivant, tu te repens. Même si tu insultes Allah. Même si tu dis les choses les plus graves au sujet d'Allah. Tu dis Allah il a un fils. Même si tu dis les choses les plus graves au sujet d'Allah, tu te repens, Allah est pardonneur, Allah il t'aime, il transforme tes péchés en des bonnes actions. Lakin, malheur à toi si tu le rencontres avec shirk ou avec la mécréance. Il n'y a plus de pardon. Ça n'existe plus. Nas'alullah salam al-afir. Nous demandons à Allah de nous raffermir sur le monothéisme pur et de prendre notre âme sur le monothéisme pur, qui n'est point attaché d'aucune forme d'associationnisme, ni apparente, ni cachée. Et ensuite, ils lui diront, quelle est ta religion? Si c'est quelqu'un qui accomplissait les cinq piliers de l'islam, il dira, ma religion, c'est l'islam. Et ensuite, ils lui diront, quel est cet homme qui vous a été envoyé? Il fait partie des suiveurs du prophète, alayhi salam, et non pas les suiveurs de Tijani, ni les suiveurs de autre secte, il dira, c'est mon messager. Alayhi salam, sinon il répond pas. Et si jamais il a le malheur de ne pas répondre, comme c'est mentionné dans ce hadith, il sera frappé avec un marteau de fer, il descendra dans la terre 70 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui. L'anassi, c'est un marteau tellement immense, était frappé de cette manière. Qu'est-ce qui t'arrive ici dans le dunya? Tu seras écrasé. Lakin, ici, c'est différent. Il descend dans la terre 70 ans. Il sera frappé une seule fois. Il criera de ce coup, toutes les créatures l'entendent, sauf les djinns et les hommes, les responsables. Car c'est le monde invisible pour eux. Lakin, sinon, tout le monde l'entendra. Et le prophète, alayhi salam, il entendait le châtiment de la tombe. Un jour, il est sorti avec ses compagnons, juste après le coucher du soleil. Il a entendu un bruit. Il a dit aux compagnons, ce sont des juifs qui sont châtiés dans leur tombe. Rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Donc, ça c'est quelques textes au sujet de la mort. Au sujet de la mort. Et la deuxième question c'était au sujet de l'épreuve de la tombe et des délices et des supplices de la tombe. Et j'ai sauté les versets. Je suis passé directement au hadith. Taïb, on va revenir sur les versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun » Donc, dans le sens approximatif de ce verset, au début de ce verset, il dit حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ. Lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, il dira « Seigneur, renvoie-moi sur terre ». Pourquoi il veut retourner sur terre ? Pour manger, boire et profiter une dernière fois ? Non, il veut revenir, regarde ce qu'Allah dit. « لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ » Peut-être alors pourrais-je y faire le bien que je n'ai point fait pour faire les bonnes œuvres. Lakins, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. C'est pour ça un salaf, il disait, imagine que la mort est arrivée et t'a demandé le retour vers Dunia. Et il t'a accordé. Alors, œuvre maintenant. Dis-toi, Allah m'a donné un délai maintenant, supplémentaire, alors une chance de plus. Amma, quand la mort arrive, il n'y a plus de retour vers Dunia. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا الله on lui dira non, c'est impossible, non, ce ne sont là que des mots qu'il lui-même dit, car devant eux se dresse une barrière jusqu'au jour où il sera ressuscité, et cette barrière c'est le monde tombal. Cette barrière c'est le monde tombal qui les empêche de retourner dans le dunya. Et qui les empêche également de passer dans l'au-delà jusqu'à ce qu'Allah le décide, avec la résurrection. La résurrection, quand les gens vont être ramenés à la vie et sortir de leur tombe. Et sortir de leur tombe, là, d'une manière plus générale, et sortir du monde tombal, afin que ça englobe tout le monde. Il n'y en a pas, tout le monde est enterré. Il y a des gens qui sont incinérés. Il y a des gens qui ont été dévorés par des carnivores. Et ils sont tous dans le monde tombal, comme Allah le sait. Et dans l'autre verset, Allah dit وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens de ce verset, il dit وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Et le plus dur des supplices cernera de toutes parts le peuple de Pharaon. C'est au feu qu'ils seront exposés matin et soir, et le jour où viendra l'heure, ça veut dire, ils seront exposés au feu matin et soir, et le jour où viendra la résurrection. Cela veut dire que cette période, elle est avant la résurrection. Ça indique bien le monde tombal. Ils seront châtiés dans leur tombe. Les gens de Pharaon, le peuple de Pharaon, les mécréants, qui ont combattu Moussa, alayhi salam, ainsi que les croyants parmi les fils d'Israël. Et le jour où viendra l'heure, il sera dit, conduisez Pharaon et sa suite vers le pire des supplices. Les supplices de l'au-delà. Donc, et les arguments tirés de la sunna au sujet des délices et des supplices de la tombe, et cette épreuve dans la tombe, sont tellement nombreux. Au point que les hadiths ont atteint le degré de tawatur. Ça veut dire que c'est rapporté d'un très grand nombre à chaque génération de la chaîne de transmission. Jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. C'est rapporté d'un grand nombre de compagnons, à un grand nombre de tabi'in, et ainsi de suite, jusqu'à notre époque. Ça, c'est ce qu'on appelle al-mutawatir. Ce sont des hadiths dont on n'a pas besoin d'étudier les chaînes de transmission. Il suffit de prouver qu'il est mutawatir pour avoir la certitude qu'il est authentique. Car c'est inimaginable qu'un grand nombre de gens se mettent d'accord sur le mensonge et que ce soit répété sur plusieurs générations. Et malgré cela, vous trouvez des sectes qui renient le châtiment de la tombe et les délices de la tombe. Comme le Mu'tazila. Et dans le hadith, le prophète alayhi salam, avant de citer ce hadith, il a cité d'abord hadith Anas radiallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salam, quand il a parlé de la tombe et de son interrogatoire, il a parlé de l'hypocrite, al-munafiq, ou le mécréant. Quand on lui posera la question, les deux anges, Munkar wa Nakir, quand ils vont l'interroger, ils vont lui dire « Qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous ?» En voulant le prophète, alayhi salam. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire « Je ne sais pas. »« La adri. »« Kuntu aqulu ma yaquluhu an-nas. » Je répétais tout simplement ce que les gens disaient. Et ça démontre une chose très importante, mes frères. Que nous devons connaître notre prophète, alayhi salam, et notre croyance avec les arguments. Faut connaître notre prophète alayhi salam avec les arguments. Donc il va dire, cet homme, il va dire, c'était un hypocrite. Il va dire, je disais ce que les gens disaient. Et les anges vont lui dire, la dareita wa la talait, que tu n'es jamais su et que tu n'es jamais compris. Et ils vont le frapper avec un marteau en fer. Une seule fois. Il criera, au point que toutes les créatures l'entendent, excepté les hommes et les djinns. Et le Nabi Al-Sazam, dans un hadith Abdullah ibn Umar, il a parlé du croyant quand il est dans sa tombe, et qu'il verra sa place au paradis, il verra sa place au paradis, matin et soir. Et il verra également sa place en enfer, matin et soir, si jamais il n'était pas parmi les gens du paradis. Et donc, il verra sa place au paradis, et ça c'est un bonheur pour lui, de voir tout ce qu'il attend. C'est pour ça qu'il dira, oh Allah, fais que l'heure arrive maintenant. Il dit, ya Rabbi, aqim as-sa'at al-an. Tellement il voit ce qu'il attend parmi les bienfaits et les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il voudra que l'heure arrive directement. Il perd patience. Lakin, et Allah subhanahu wa ta'ala lui montrera également sa place en enfer si jamais il était parmi les gens de l'enfer. Et ça aussi, c'est un grand bienfait sur lui d'être sauvé de ce châtiment. Et c'est ça ce qu'on appelle en arabe le falah. Le falah, c'est un terme que je ne connais pas en tout cas en français. On dit le succès, la réussite, mais le falah en arabe, c'est plus fort que le succès et la réussite. Le falah, il est composé de deux choses. Il est composé de l'obtention de ce que t'aimes et ce que tu souhaites, et aussi d'être sauvé de ce que tu crains. C'est ça le falah. C'est pour ça le falah pour cet homme, c'est d'être sauvé de l'enfer et de faire partie des gens du paradis. Et c'est à ce falah qu'on t'appelle quand c'est la salat. Quand le muadzin il appelle les gens à la salat, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit « Hayya ala al-falah ». Venez à ce falah. Venez au falah. Et ceux qui ne viennent pas, ils ne répondent pas à cet appel. Ils ne répondent pas à l'appel de l'falah. Malgré qu'ils sont appelés 5 fois par jour au falah. Et le prophète, dans un hadith authentique, un jour est passé par 2 tombes, il a dit, les personnes enterrées dans ces tombes sont châtiées en ce moment. Il a dit, l'un d'entre eux est châtié à cause de la calomnie qu'il faisait. C'était un calomniateur. Et l'autre, il était châtié dans sa tombe. Pourquoi ? Quand il faisait ses besoins, quand il allait uriner, il ne se purifiait pas correctement. Il laissait l'urine sur ses vêtements. Ça, c'est parmi les causes du châtiment de la tombe pour les monothéistes. La médisance, la calomnie. Lakin, attention à tomber dans l'exagération. Et tomber dans le waswas de Shaitan au sujet de la purification. Il n'est pas question de sauter dans les toilettes 5 fois ou la 10 fois, comme certains disent. Ou là, de tirer son organe plusieurs fois, chose qui peut provoquer des maladies. Tout ça n'est pas légiféré. Mais de faire tout simplement comme le Nabi A.S. il faisait. Quand il terminait ses besoins, il se purifiait avec de l'eau. Une fois, c'est suffisant, c'est bon. Ou plus, s'il y a besoin. Et sinon, avec du papier ou là une pierre, 3 fois minimum. Et de partir. Ça, ce qui est demandé. Ce qui est visé par le hadith, c'est une personne qui ne faisait pas attention à cela et qui était négligente. Amma, celui qui est dans l'excès et l'exagération, peut-être qu'il est pire que celui-là. Vous savez que l'exagération, elle est en général plus dangereuse que le laxisme. Iyyakum wal ghulou. C'est pour ça que Nabi Sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre l'exagération. Et il nous a informé que ce qui a fait périr les gens d'avant nous, c'est justement l'exagération. Il faut être dans le juste milieu. Et le juste milieu, c'est pas nous qui allons l'inventer. Le juste milieu, c'est de suivre le Nabi alayhi sallam. Et Nabi alayhi sallam nous a enseigné également, après, à la fin de chaque salat, de chercher refuge auprès d'Allah, contre 4 choses dont le châtiment de la tombe. Et comme a dit Cheikh Hafd al-Hakami à la fin de cette réponse, il a dit que dans son autre livre, Ma'arij al-Qaboul, il a cité presque 60 hadiths authentiques qui indiquent l'existence de l'épreuve de la tombe et du châtiment de la tombe et des délices de la tombe. Et Cheikh Najmi Rahimallah, dans son commentaire, il a dit que c'est un livre d'une très très grande valeur et qu'il n'a pas vu un livre comme ce livre qui regroupe les arguments sur les points de la croyance. Une encyclopédie des arguments de la croyance authentique. Ce livre de Cheikh Hafd al-Hakami, Ma'arij al-Qaboul, qui est édité en 3 volumes, édition d'Ar ibn al-Jawzi. C'est la meilleure édition de ce livre, en 3 volumes. C'est une encyclopédie d'arguments. Il vient sur chaque point, dans lequel, bien évidemment, il explique Sulam al-Wusul, son poème dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans chaque point de la croyance, il va citer tout ce qu'il trouve comme argument tiré du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi sallam. Donc, nous allons nous arrêter ici, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.